Bonjour à tous. C'est une joie de vous voir ce matin. Certains visages que je n'avais pas vus depuis quelque temps. Cela réjouit mon cœur ainsi que le cœur de Suzanne. Nous vous remercions de votre présence. Et pour ce temps ce matin, qui est d'abord très émouvant, donc je me suis préparé pour moi-même et pour mon épouse, puisque cela ravive tant de souvenirs. Mais quelle joie anime nos cœurs, nos pensées, que de marquer 25 ans d'un service de grâce accordé par notre Dieu. Les luttes menées, les combats endurés, les douleurs subies n'ont pas été faciles à vivre, et par la grâce de Dieu, elles ont pu être surmontées. Et quelle bénédiction de voir un bon nombre de personnes se tourner vers Christ dans la repentance et la foi, et passer par les eaux du baptême. En 25 ans, nous avons vu 93 baptêmes, ici à Chambourcy, 19 à Aigremont, et un baptême dans le lac de Galilée, en Israël. Et je me réjouis que mon frère est là, présent aujourd'hui. Nous avons également eu la bénédiction d'avoir de nombreux frères et sœurs en Christ qui étaient à la recherche d'une famille spirituelle se joindre à nous au fil des ans afin que, ensemble, nous puissions servir et œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu. Et je profite pour exprimer en préambule à notre texte de ce matin et sans attendre que je suis fier de chacun des membres et responsables passés et présents de cette assemblée, qui, avec nous, au fil des années, ont manifesté du courage, de l'abnégation, en combattant pour faire vivre l'Église par le maintien de sa vision missionnaire et de ses valeurs. Vous tous, acteurs qui ont montré et qui continuent de montrer des qualités d'adaptation et de résilience. Des personnes que Suzanne et moi-même, nous avons eu le privilège d'épauler, de soutenir, d'accompagner par nos prières, nos conseils, notre présence, en vous confiant à la grâce de notre Dieu. Alors, après avoir apporté 1125 prédications en 25 ans et plus de 2200 études bibliques durant toutes ces années parmi vous, devant la requête des anciens d'apporter la prédication lors de notre célébration aujourd'hui, je me suis posé la question, mais que puis-je apporter de plus? Que puis-je apporter comme exhortation de la parole, pour vous encourager une nouvelle fois de tenir ferme dans la foi alors que nous nous apprêtons à vous quitter. Après un temps de prière, de réflexion, le Seigneur m'a mis à cœur de vous laisser ce passage dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er, versets 9 à 11. Vous pouvez suivre dans vos Bibles. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre foi abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. L'apôtre Paul prie ici fondamentalement pour le progrès spirituel continu des chrétiens à Philippe. Il avait cette passion pour le développement spirituel de chacun. Et c'est la même passion qui m'a animé et qui m'anime encore à votre égard. C'est le devoir d'un conducteur spirituel de prier pour le progrès spirituel du peuple de Dieu, particulièrement ceux à qui ils ont la charge. Alors Paul prie, et notez bien les intentions de son cœur. On trouve ici cinq choses pour lesquelles il prie. D'abord, l'amour grandissant, le discernement, l'intégrité, le fruit de justice et la gloire de Dieu. Et il prie afin qu'eux peuvent poursuivre ces choses. Nous savons fort bien que dans cette vie, nous ne parviendrons jamais à un amour parfait, à une intelligence parfaite, à une intégrité parfaite, à accomplir de bonnes œuvres et à glorifier pleinement Dieu. Mais c'est le but que nous devons poursuivre dans notre vie de disciples de Christ. Nous avons donc ici les cinq éléments qui sont les indispensables de la vie spirituelle, de la piété, de la bonne santé spirituelle. Retenons pour commencer que ces éléments sont interdépendants. L'amour produit l'intelligence, qui produit l'intégrité, qui produit de bonnes œuvres et qui produisent la gloire à Dieu. Et chacun de ces éléments jette donc les bases du prochain. Donc cette prière implique cinq éléments essentiels que chacun de nous, nous devons poursuivre afin que nous devenions, chacun de nous, ce que Dieu veut que nous soyons. Premièrement, l'amour grandissant. Verset 9 nous dit que votre amour augmente de plus en plus. La plus grande vertu, nous dit la parole, c'est l'amour. La plus grande ressource que possède un enfant de Dieu, c'est l'amour. En fait, sa demande, c'est que cet amour-là soit abondant. De ce fait, nous pouvons conclure que Dieu en est la source. Par conséquent, considérez que c'est un amour divin. Ce doit être un amour divin où il ne demanderait pas à Dieu de le fournir. Dans Romains 5, verset 5, il nous est dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. » Et dans Galates 5, verset 22, « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. » Et tout le reste découle de l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Mais nous nous rappelons que c'est un don de Dieu. Nous aimons Dieu parce qu'il a quoi? Il nous a d'abord, lui, aimés. Nous avons la capacité d'aimer parce qu'il nous l'a donné, son amour. Et le fait que Paul demande à Dieu que leur amour augmente indique qu'ils ont déjà cet amour. Et ce qu'ils réclament pour eux, c'est une plus grande expression de cet amour. Il ne s'agit donc pas de l'acquérir, il s'agit de voir Dieu l'augmenter. Et si on se base sur le terme utilisé pour exprimer l'amour au verset 9, il s'agit du terme agapé, qui nous renvoie à la forme d'amour la plus haute et la plus noble. Écoutez attentivement. C'est l'amour de choix, l'amour de la volonté. Ce n'est pas une impulsion, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un amour attiré par quelque chose à cause de sa beauté ou de son attractivité. L'amour divin, c'est l'amour de la volonté. C'est l'amour du choix. C'est ce que Dieu a fait. Et il est résolu. Dieu a tellement aimé le monde. Et Jésus l'a défini quand il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de quoi? Que de donner sa vie pour ses amis. C'est un amour sacrificiel, l'amour du choix. C'est l'amour qui choisit d'aimer l'inimaginable, le disgracieux. C'est un choix. Bien-aimés, la mission de l'Église et le grand fardeau de la vie de prière de Paul, c'est que l'Église de Philippe, notre assemblée et toutes les autres églises du Seigneur expérimentent ce genre d'amour divin. Où nous décidons de nous aimer. Peu importe si certains sont peu aimables. Peu importe ce que nous faisons ou ne faisons pas. Aimer, c'est agir. Aimer, c'est répondre aux besoins des autres, quel que soit ce besoin. Alors, il peut s'agir d'un besoin émotionnel, d'un besoin physique, d'un besoin spirituel, d'un besoin matériel, quel qu'il soit. C'est la clé de la vie, de la croissance spirituelle. Et l'amour pour lequel Paul prie ici, c'est aussi un amour dynamique, pas un amour statique. Le texte nous dit « Je prie que votre amour soit encore plus grand, qu'il abonde. » Ça veut dire « déborde, ondule sur la vague, se transformer en cascade. » C'est ce qu'il dit quand il dit « Je vois que votre amour dynamique et je prie qu'il grandisse, qu'il progresse, qu'il s'agrandit, qu'il s'élargit, qu'il puisse augmenter de jour en jour. » Un amour dynamique. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas nous satisfaire de la quantité d'amour que nous avons à ce jour. Donc l'amour dont nous parlons ici est très profond. Il se situe au niveau de la conviction et de la vérité. Et cette vérité nous vient de la parole de Dieu. C'est ce qui doit contrôler notre amour. C'est ce qui contraint notre amour. Plus nous en savons sur Dieu, plus nous en savons sur sa personne, plus nous en savons sur sa parole, plus on s'engage dans cette parole, plus nous obéissons à notre Dieu. Et alors, plus grand sera notre amour, plus son expression sera grande, et plus son expression sera pure. Nous lisons à la fin du verset 9 que cet amour doit abonder non seulement dans la connaissance réelle, mais en pleine intelligence, en vraie sensibilité. Donc ce qui est dit ici, c'est que notre amour est contrôlé par notre théologie. Notre compréhension et l'application de cette théologie dans nos vies, la façon dont nous la vivons, c'est la vérité appliquée. Et mes amis, le vrai amour n'est pas aveugle. Il n'est pas comme l'amour émotif humain. Et croyez-moi, l'amour affectif humain, comme une impulsion non réglementée, est dangereux, volatile, voire mortel. A contrario, l'amour divin, l'amour biblique, n'est pas aveugle. Il est très perspicace. Il sait exactement ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est erroné et ce qui est vrai. Et il peut faire agir de la bonne manière, au bon moment, dans la vie. Il est ce service, ce sacrifice, cette humilité qui répond aux besoins des autres, tels qu'on les voit, tels qu'on les cerne, tels qu'on les comprend. Mais doté de cette réflexion sérieuse, de cet examen minutieux, un discernement attentif, l'amour de Dieu conforme à la parole de Dieu et appliqué avec perception, avec perspicacité. Voilà ce à quoi Paul aspire pour les frères et sœurs à Philippe. Voilà ce à quoi j'aspire pour chacun de vous ici aujourd'hui. Un amour biblique qui a du discernement sous le contrôle d'un esprit spirituel qui possède cette raison spirituelle. Un amour sage et un amour judicieux. Deuxième chose, ça va aller plus vite, ne vous inquiétez pas. Le premier point est important. Deuxième point, le discernement, verset 10. Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important pour le discernement des choses les meilleures. Mais remarquez ici l'interdépendance. Cet élément traite du sens des priorités qui suit le premier des éléments indispensables, à savoir l'amour. Le petit mot « qu'ainsi » ou « pour » fait le lien et nous montre qu'il y a une progression ici. Lorsqu'une personne est littéralement dominée par l'amour de Dieu, elle aura le désir correspondant de chercher et approuver les choses meilleures. Pourquoi ? Parce que le véritable amour est contrôlé par la connaissance profonde de la parole, ce qui permet aux disciples de Christ d'être perspicace, d'avoir du discernement, ce qui l'amène au meilleur. Vous ne pouvez rien discerner sans cet amour pénétrant, sans cette attitude d'engagement que la parole appelle l'amour. Alors maintenant, écoutez attentivement, ce n'est pas la capacité de faire la distinction entre le bien et le mal. Tout le monde peut le faire. Certains, on se demande s'ils arrivent à le faire. Mais c'est la capacité de faire la distinction entre le bien et le mieux. Et seuls, certains franchissent ce pas. Le discernement qui évalue ce qui est mieux, le mieux, c'est crucial. Être capable déjà de prendre notre vie en main et de consacrer notre temps et notre énergie à ce qui compte vraiment, approuver le meilleur, tester, évaluer, prouver, approuver ce qui est le plus important. Et en tant que disciples de Christ, si nous devons poursuivre le meilleur, notre raison doit l'emporter sur notre humeur du moment. Nous ne pouvons pas être victimes de nos émotions, de nos sauts d'humeur, si nous voulons poursuivre le meilleur. Dans Romains 12, 2, vous connaissez bien ce passage, il nous est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre esprit doit être renouvelé. Notre pensée doit être mise en ordre. Et c'est pourquoi, dans une autre prière, Paul prie en Philippiens 4, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Cela commence par notre esprit, notre pensée. Et vous voyez le caractère d'un enfant de Dieu à son plus haut niveau est un amour divinement implanté et grandissant, contrôlé par la vérité et la sagesse qui recherche avec discernement et clarté ce qui est le meilleur. Jetez un œil sur votre vie ce matin. Est-ce que tu adoptes et tu poursuives vraiment le meilleur? Ou ta vie est-elle remplie de plein de choses qui ne comptent pas du tout, mais qui sapent, qui aspirent votre énergie? Sachez apprécier ce qui est important. Troisième élément, l'intégrité, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle, à la pureté, à l'intégrité personnelle, être sincère. Non pas porter une faille dans notre vie que nous aurions masquée, mais à une véritable intégrité spirituelle. Vous voyez, ce sont les ingrédients de la vie spirituelle. Un amour dominant, une poursuite du meilleur et une vie sincère, sans faille. Un caractère capable de faire face à l'inspection. Une vie vers laquelle les uns et les autres peuvent se tourner et partir en disant « Cette personne est authentique. Cette personne est réelle. Elle n'est pas fausse. Ce n'est pas juste une petite copie. » Voilà ce que c'est que l'intégrité personnelle. Mais le deuxième terme au verset 10 dit « irréprochable ». Et là, il s'agit d'intégrité relationnelle. Ce mot signifie ne pas faire trébucher les autres. Et cela implique une intégrité relationnelle. Ne pas vivre une vie qui fait trébucher les autres. C'est très important. 1 Corinthiens chapitre 10 déclare « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Ainsi, nous devons être très prudents concernant la manière dont nous vivons. Ainsi, l'apôtre prie pour cette intégrité relationnelle, mais aussi l'intégrité personnelle. D'abord, que vous ne trébuchiez pas vous-même et que vous ne fassiez pas trébucher les autres. Que vous n'ayez pas de fissures dans votre vie et que vous ne fassiez pas craquer les autres. Cela signifie donc que nous devons avoir une vie, une attitude sans compromis. Nous parlons vraiment de ne pas avoir une vie compromettante, mais une vie vécue selon la parole de Dieu, sans déviation, fidèle à la conviction biblique. Quatrième élément, le fruit de justice. Rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. D'après ce texte, nous savons que l'amour produit la recherche du meilleur, qui produit l'intégrité, et l'intégrité produira toujours de bons fruits, de bonnes œuvres. Et notez bien que « rempli » est un parfait participe passé et que cela implique quelque chose qui s'est déroulé dans le passé, mais dont les résultats sont continus. Et cela implique qu'au jour du Christ, qui est le thème de ce verset 10, et ce verbe revient alors en arrière et résume la vie de la personne et dit « Quand tu te tiendras au jour du Christ, tu auras déjà été rempli de justice ou du fruit de la justice. » Ainsi, Paul prie parce qu'il entrevoit cette condition achevée. Il examine le bilan des bonnes œuvres produites par Dieu dans une vie d'intégrité, une vie d'excellence, une vie d'amour. Et donc nous avons ici la vision du disciple de Christ qui arrive au jour du Christ et parce qu'il a cherché le meilleur et qu'il a maintenu son intégrité, il a rempli sa vie de bonnes œuvres et il arrive à ce jour, le jour de Christ, déjà rempli des fruits de la justice, le fruit de l'amour, le fruit de l'excellence. Le fruit de l'intégrité. Et cinquième élément, verset 11, à la gloire et à la louange de Dieu. Jésus était très clair. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Tout est à la gloire de Dieu. C'était le mot que Béa nous a donné au début de cette cérémonie, de ce culte. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a rendus féconds pour sa gloire. Nous devons lui apporter l'honneur, lui apporter la gloire par notre vie. Alors écoutez bien, une vie d'amour, une vie d'excellence, une vie intègre et une vie de bonnes œuvres apporte la gloire et la louange à Dieu. La gloire, le mot gloire ici doxa en grec, signifie la somme totale de la perfection de Dieu. La louange est l'hommage rendu à Dieu pour cette perfection. Ainsi, l'amour de Dieu versé dans nos cœurs, riche en connaissances, perspicace de sa parole, nous pousse à vraiment rechercher l'excellence avec une intégrité spirituelle, ce qui génère une vie de pouvoir à travers Christ, produire de bonnes œuvres qui ricochent pour la gloire de Dieu. Lui qui est seul digne des louanges éternelles, c'est la somme de tout. Alors, cette prière de Paul, c'est ma prière pour vous. Et je prie que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen.